Donc, je vais présenter aujourd'hui les résultats d'une recherche déjà ancienne que j'ai entamée il y a presque 10 ans dans le cadre d'un terrain de thèse. Et j'ai toujours pas publié sur les résultats de cette recherche, ni dans ma thèse que j'ai soutenue il y a 2 ans, ni sous forme d'article dans un autre cadre. Donc, j'ai pas trop le temps de parler de ma thèse, mais j'avais consacré ma thèse à l'étude d'un mouvement de réforme alimentaire à la Nouvelle-Orléans au lendemain de l'ouragan Katrina de 2005. Donc c'était une réforme qui visait notamment à améliorer l'accès à des produits frais et sains, c'était le terme employé, healthy foods, dans des quartiers sinistrés par la catastrophe, pour redynamiser ces quartiers, lutter contre l'obésité, reconstruire une ville meilleure. Et donc à cette occasion, j'avais mené des observations des pratiques alimentaires et de la vie quotidienne d'une famille de classe moyenne noire chez qui j'avais loué une chambre pendant 5 mois. Donc j'avais pris de nombreuses notes, croquis, photographies. Au moment de rédiger ma thèse, j'ai pas pu intégrer ce matériau ethnographique pour diverses raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir en discussion. Quoi qu'il en soit, j'ai repris ce travail d'analyse il y a un an seulement, en ouvrant mes vieux carnets de notes sur la vie quotidienne donc de cette famille, à l'occasion d'une invitation à une conférence annuelle d'ethnographie urbaine, donc qui est organisée à Yale du 1er au 3 novembre prochain. Et alors le thème cette année de la conférence, c'est observer et représenter la vie quotidienne, donc ça tombait bien. Et donc c'est pour ça que j'ai remis aux organisateurs un texte rédigé en anglais pour répondre à cette invitation. L'idée, c'était de répondre donc aux enjeux spécifiques de cette conférence qui vise à faire dialoguer des travaux de jeunes chercheurs français et américains autour de références communes comme l'école de Chicago ou la sociologie de Bourdieu. Donc voilà, je tenais à faire cet avertissement. Donc la communication que je vais faire aujourd'hui vise un peu à ressusciter ce terrain mort-né. Donc en présentant ces premiers résultats de recherche préparés pour un public américain, alors j'ai évidemment un peu adapté mon propos. J'avais pas prévu au départ de parler de la notion d'identité, mais en creusant la question pour le besoin du colloque, j'ai trouvé que c'était très utile justement de partir de cette notion d'identité pour présenter ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, qui vise à comprendre la signification sociale des pratiques alimentaires de cette famille et comment la situer socialement à partir de son alimentation. Donc, premièrement, comment on peut penser ou définir l'identité? Alors, j'étais pas là hier, je m'excuse, mais bon, j'imagine, j'ai déjà entendu cet après-midi qu'on a souvent répété beaucoup de choses à ce sujet. Donc, c'est classique de dire qu'avec la langue, la cuisine est souvent présentée comme un des attributs culturels qui définissent le mieux l'appartenance à une identité commune à un groupe. Qu'elle soit à base régionale ou nationale, rurale ou urbaine, populaire ou bourgeoise, identité sur des bases d'appartenance religieuse ou ethnique encore. Et donc, cette notion s'est rapidement imposée, diffusée dans les discours profanes et savants depuis les années 60. Elle a été beaucoup critiquée aussi pour son flou théorique et pour le risque d'essentialisation et de réification de groupes sociaux que son usage incontrôlé pouvait engendrer. Je vais juste revenir sur une critique de la notion qui me semble particulièrement opératoire. Donc c'est l'anthropologue Frédéric Barthes qui, en 1969, dans Ethnic Groups and Boundaries, propose de substituer à la catégorie donc d'ethnicité ou de groupe ethnique, mais on pourrait dire la même chose pour la catégorie identité, race, culture, etc. Donc il propose de remplacer la catégorie elle-même par les frontières de la catégorie. Et donc il nous dit c'est la frontière ethnique qui définit le groupe et non le matériau culturel qu'elle renferme. Donc la question de recherche n'est plus tant de savoir ce que renferme la catégorie et de disserter sur qu'est-ce que l'identité en tant que telle, la race, la culture, l'ethnicité, etc., mais d'expliquer comment ces frontières sont maintenues et font exister la catégorie dans la conscience des acteurs par, je cite, une expression et une validation continuelle. Donc on porte l'attention, ça a été repris depuis par les promoteurs de la sociologie culturelle aux États-Unis. Donc on porte l'attention sur la construction de l'identité par un travail quotidien des acteurs. Et alors là où c'est intéressant, c'est que c'est pas du tout une position qui serait dangereusement constructiviste ou postmoderne. En fait, sans le savoir, Barthes s'inscrit dans une tradition très française, puisque quand on dit que ces frontières qui vont définir une identité ou un groupe sont maintenues par une expression, une validation continuelle, ça rejoint la définition anti-essentialiste de la nation française comme plébiscite de tous les jours, que Ernest Renan opposait la définition allemande de la nation fondée sur le droit du sang. Donc c'est pas une innovation totale, cette vision. Ça s'est largement répandu dans les travaux sociologiques américains, et donc je me suis intéressé dans cette recherche à ce que les sociologues américains appellent le travail sur les frontières, ou travail de défense ou de maintien des frontières, boundary work. en cherchant à comprendre comment la famille chez qui j'étais hébergé, les Taylor, je vais la présenter juste après, maintenait ses frontières de race et de classe dans ses activités quotidiennes, en particulier à travers ses pratiques alimentaires. Alors la notion de frontière de race et de classe, je la prends de Elijah Anderson, donc un sociologue américain formé à Chicago, noir américain, qui dans un article donc paru sous le même titre en 83, il analysait lui les relations entre des populations blanches de classe moyenne et des noirs pauvres dans un ghetto en voie de gentrification à Philadelphie. Et donc il s'intéressait autant aux frontières physiques de ce quartier, à la façon dont on a vraiment des frontières territoriales qui vont délimiter les espaces et les places réservées à chaque groupe, mais il s'intéressait aussi à ces frontières symboliques, ou frontières sociales ou symboliques, donc que les habitants construisaient dans leurs interactions quotidiennes. Et alors l'idée essentielle qu'il faut bien saisir, en fait, c'est que ce travail de maintien des frontières, en fait, Anderson, il le repère chez ses acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ces frontières, c'est pas tant une catégorie d'analyse qu'une catégorie pratique qui est rendue nécessaire par les problèmes concrets qui se posent aux habitants. Les anthropologues diraient que c'est autant une catégorie émique qui vient de l'intérieur du groupe observé qu'une catégorie éthique qui est imposée de l'extérieur par l'observateur. Et donc l'idée, en fait, c'est que ce travail de maintien des frontières, ça fonctionne à la manière d'une étiquette ou d'un répertoire, d'un code d'usage et de règles informelles qui permettent aux habitants du ghetto de résoudre un problème qui se pose au quotidien dans leur vie, c'est-à-dire de circuler en sécurité dans les rues du ghetto, comment éviter de faire des mauvaises rencontres, comment. Et donc voilà, il faut maintenir toutes ces apparences de respectabilité pour les uns. En même temps, les pauvres doivent... c'est-à-dire les noirs de classe moyenne doivent paraître respectables pour pas se faire harceler par la police. En même temps, ils doivent paraître agressifs face à d'autres potentiellement dangereux qui pourraient les agresser dans la rue. Donc il y a tout un jeu comme ça de construction de l'identité qui va d'un sens à un autre. Alors pourquoi s'intéresser à l'articulation donc à ces frontières de race et de classe? Ben on l'oublie souvent avec la place croissante occupée par les identités genrées, sexuelles, raciales ou religieuses dans le débat public aujourd'hui. Mais la classe sociale est bien sûr encore un principe structurant d'identité, hein, on l'a revu avec la présentation de Martin Bruegel. Et puis encore aujourd'hui, on a une grande différenciation sociale des consommations alimentaires quand on lit les enquêtes françaises. Mais ce phénomène est encore plus visible aux États-Unis où on observe une aggravation des inégalités de santé liées à l'alimentation entre riches et pauvres dans les dernières années. Alors ma question de recherche, pourquoi voilà, je me suis intéressé à cette famille et son alimentation. L'hypothèse de départ qui a guidé ma recherche, a été fournie par la distinction de Bourdieu. Donc dans ce livre, il parle pas d'identité, mais il démontre à travers une lecture des enquêtes de consommation de l'INSEE dans les années 60-70 qu'il existe un système de correspondance globale, une homologie, il dit, entre les goûts et la position sociale des individus. C'est pas nouveau, Claude Grignon a montré, ça a été évoqué aussi dans la présentation précédente, que l'idée que les habitus et les styles de vie des individus se reflétaient ou s'exprimaient dans les objets qui les entouraient, ça se retrouve déjà chez Flaubert ou dans le roman réaliste ou naturaliste de Zola. On trouve ça aussi dans les travaux de Veblen sur la consommation ostentatoire de la classe de loisirs ou encore de Norbert Elias sur le procès de civilisation. Par contre, là où Bourdieu innovait, il me semble, par rapport à ses sources littéraires et ses autres travaux sociologiques, c'est qu'il a mis à l'épreuve empiriquement une théorie constructiviste et relationnelle de la classe sociale. Donc, à l'époque, on avait une définition très réaliste de la classe qui était portée par l'orthodoxie marxiste. Bourdieu montrait qu'en fait, la classe était le produit de classements ordinaires. Voilà pour le constructivisme. C'est aussi une définition relationnelle, puisque ces classements s'opèrent vis-à-vis de soi et des autres aussi. C'est-à-dire, alors c'est ce que nous dit la quatrième de couverture des distinctions, hein, que les sujets sociaux sont des classeurs classés par leur classement. Donc l'idée un peu, c'est que la classe est une performance qui se joue au quotidien dans les gestes les plus anodins comme la cuisine. On va se classer soi-même par rapport à d'autres individus qu'on va classer autrement. Donc on va chacun faire des jugements sur les goûts des uns et des autres, goûts alimentaires, musicaux, littéraires, en matière de décoration, etc. Et c'est ça qui va permettre aux individus de se classer dans un espace et qui va correspondre à l'espace social tel que le définit Bourdieu avec les catégories des CSP de l'INSEE. Alors, quand j'étais arrivé chez la famille Taylor à la fin de l'année 2008, j'avais en tête ce modèle de la distinction. Et donc, je m'attendais à en trouver une traduction dans les observations que je faisais de la famille. Le problème, c'est que ça marchait pas, parce que c'était une famille qui était une famille de classe moyenne, résolument ancrée dans les classes moyennes depuis plusieurs générations. Il y avait une relative réussite professionnelle. On va revenir dessus, on pourrait plutôt la caractériser comme une famille de lower middle class, mais c'est typique de la classe moyenne noire. Et donc cette famille, les pratiques alimentaires de cette famille me semblaient plus proches de ce que Bourdieu appelle le goût populaire, donc c'est-à-dire le goût des classes populaires, qui est défini comme un goût de nécessité pour voilà des nourritures abondantes, bon marché, cuisinées voilà avec des modes de préparation intensifs en travail, hein, qui reposent sur une division sexuée du travail aussi. Donc on a des ragoûts, des mijotés, qui reposent sur un travail féminin important. Donc voilà, les pratiques alimentaires de cette famille semblaient beaucoup plus proches de ce goût populaire que de ce que Bourdieu appelle le goût moyen ou le goût petit bourgeois, donc qui est le goût propre aux classes moyennes, et qui lui est marqué par ce qu'il appelle une bonne volonté culturelle, où on va essayer d'imiter un peu servilement le goût des classes dominantes. Donc voilà, déjà j'étais frappé par ça, j'avais du mal à situer socialement cette famille, ces pratiques étaient en décalage avec leur classe sociale objective. Et puis bien sûr, il y avait un autre problème, c'est que j'étais rapidement confronté à une donnée qui n'est pas du tout prise en compte par la théorie de la distinction, puisque c'est une théorie qui est centrée sur la stratification sociale et la classe. Et ben, c'était la notion de race. Et évidemment, dans le sud des États-Unis, et aux États-Unis plus généralement, la race est une division centrale de la société, hein. Et donc, les Taylor, par exemple, eux reconnaissaient manger et cuisiner quasi exclusivement de la soul food, ou nourriture de l'âme, donc qui est une cuisine traditionnelle du sud des États-Unis, d'origine rurale et populaire, qui a été adoptée dans les années 60 par l'ensemble de la communauté noire, assez largement, et qui est devenue aujourd'hui un symbole revendiqué de cette identité noire, de cette blackness, par-delà les différences de classe qui peuvent diviser cette communauté, hein, parce qu'on a souvent une vision homogène des Noirs américains, comme si elle était... voilà. C'était une population exclusivement pauvre, hein, ce qui est faux, la majorité des Noirs américains aujourd'hui appartiennent aux classes moyennes. Donc l'un des objectifs de cette présentation, là, c'est de montrer comment on peut intégrer la race à cette analyse de la distinction. Le raisonnement, moi, le cheminement que j'ai fait, c'est que je suis vraiment parti de leur position de classe, des Taylor, qu'on les situait voilà, socialement dans la black middle class, notamment à partir de leur occupation professionnelle et de leur rapport au travail, à la consommation, pour expliquer ensuite la place particulière de la soul food, de cette alimentation, de cette cuisine ethnique, pour expliquer voilà la place de cette cuisine dans cette configuration sociale qui me semblait évidemment particulière mais aussi représentative de l'expérience d'un grand nombre de Noirs américains de classe moyenne. Et donc là-dessus je renvoie à ce livre Black Picket Fences de Marie Patillo, donc qui est une ethnographie qui montre à quel point l'expérience sociale des Noirs de classe moyenne aux États-Unis est complètement différente de l'expérience sociale des Blancs de classe moyenne. Alors la famille Taylor, là voici une photo qui a été prise pendant la finale du Super Bowl où les Saints de la Nouvelle-Orléans qu'ils avaient remporté, c'était en 2011 je crois, ou 12. On a deux parents, Esteban ici et Barbara. Ils ont deux enfants, Bianca qu'on voit là avec son fils Jayden. Tristan, on le voit pas sur la photo, Tristan. En tout, ça fait 6 petits-enfants, donc Jayden, le fils de Bianca, et leur autre fils a 5 enfants, qui sont vers là. Voilà, là, c'est Tristan 2, Bryce et Brianna, des jumeaux qui avaient 1 an. Ça, c'est l'épouse Marquetta de Tristan. Et donc, il y a un troisième qui est pas sur la photo non plus, c'est le fils aîné, Esteban 3, qui, lui, vit à Atlanta avec son compagnon, où il est fonctionnaire pour le ministère de la Santé. Et donc, il visitait la famille que pour Pâques ou des occasions comme la fête des mères. Alors, juste pour se situer socialement, leur profession déjà, donc Esteban, lui, il est chauffeur de taxi, chauffeur privé, en fait, pour une compagnie de limousine. Barbara, elle, était conductrice de bus scolaire à mi-temps. Bianca, elle est travailleuse sociale dans un centre de soins pour toxicomanes. Tristan, qu'on voit pas sur la photo, est donc officier de police. Et Marquetta, sa femme, est concierge dans un hôtel. Alors, à noter aussi que c'est une famille recomposée, parce que certains des enfants sont issus du mariage précédent de la femme de Tristan, Marquetta. Donc c'est une famille qui est installée à Nouvelle-Orléans depuis plusieurs générations. Le père de... Et donc je disais aussi qu'ils sont de classe moyenne depuis plusieurs générations, puisque le père d'Esteban, donc ça c'est la 4e génération, est gérant et propriétaire d'un bar et d'un restaurant et possédait plusieurs commerces dans la ville. La famille de Barbara, elle, est originaire d'un comté rural du sud de la Louisiane. Donc le père de Barbara était venu à la Nouvelle-Orléans trouver un travail dans une usine d'aluminium au début des années 80. Et il y a rencontré Esteban, donc qui allait épouser sa fille plus tard, qui était ouvrier dans cette usine jusqu'à sa fermeture en 89. La mère, donc avant d'être chauffeur de taxi, la mère de Barbara, elle travaillait comme cuisinière, puis comme infirmière. Et Barbara, avant d'avoir son travail de conductrice de bus scolaire, elle travaillait comme serveuse dans la restauration. Donc tout ça pour dire qu'en fait, voilà pourquoi j'ai insisté sur les emplois qu'ils ont eu au cours de leur vie, que une des caractéristiques de la classe moyenne noire aux États-Unis, c'est que c'est une lower middle class, c'est des emplois de service, souvent des emplois de care pour les femmes, et donc il y a une vraie précarité et un risque objectif de déclassement. Et tout se passe comme si, dans la famille Taylor, là, les chances de mobilité sociale étaient redistribuées à chaque génération. C'est comme si, à chaque génération, chaque membre de la famille devait refaire tout le travail pour s'élever vers les classes moyennes qu'ont réalisé les parents. Donc, voilà, ils sont tous commencés à la base pour avoir ensuite des emplois un peu plus de classe moyenne. Et donc, ce risque du déclassement, il se pose de manière très concrète aux membres de la classe moyenne noire, puisque ils vivent dans des quartiers ghettoisés, entouré d'habitants noirs pauvres, donc qui menacent directement leur mode de vie. Alors ces habitants de quartiers ségrégés, donc on a Anderson qui lui parle d'une distinction entre des familles décentes et des familles orientées vers la rue. Et donc ces familles orientées vers la rue, elles vont se construire en opposition aux valeurs dominantes des classes moyennes. Ne serait-ce que du fait que les enfants fréquentent les mêmes écoles que ces familles pauvres du quartier, elles sont toujours un risque de mauvaise influence qu'ils peuvent avoir sur l'éducation des enfants. Et donc, le résultat, c'est que les membres de la famille Taylor cherchaient avant tout à se distinguer de ces familles du ghetto, donc que Elijah Anderson appelle orientées vers la rue. Et on observe ces pratiques de distinction dans leur rapport au travail, hein. Ils avaient un rapport ascétique, voire sacrificiel au travail. Je travaille tout le temps, il faut bien gagner de l'argent, etc., disait Bianca. On voit aussi dans leur goût pour la décoration intérieure, hein, plutôt conformiste, plutôt sobre dans la décoration. Aussi par leur style vestimentaire, qui était plutôt casual, par opposition au code vestimentaire de la rue. Ils n'avaient pas trop de streetwear, hein, encore que ça arrivait des fois le week-end. On voit aussi par leur faible consommation d'alcool, c'était une consommation exclusivement masculine et cantonnée aux fêtes de famille, ou encore par le fait que personne ne fumait dans la famille. Et dès que je me suis installé, par exemple, j'ai demandé si je pouvais fumer dehors sur la terrasse, et Stéphane m'a répondu que si je prenais de la drogue, j'avais le droit de fumer, et si je prenais de la drogue, il allait me jeter dehors immédiatement. Donc voilà, on est vraiment dans les normes de respectabilité, de décence des classes moyennes. En matière de goût alimentaire, en revanche, là où c'est étonnant, c'est que tout se passe comme si les Taylor ne cherchaient pas à se distinguer des noirs pauvres, comme ils le font dans d'autres domaines de leur vie quotidienne, que des blancs de classe moyenne. Donc ils revendiquent voilà, manger exclusivement de la soul food, c'est donc cette cuisine ethnique traditionnelle des noirs américains. Donc il y a une histoire compliquée hein, qui est partagée par les noirs et les blancs. Donc qu'est-ce que c'est que cette cuisine? En gros, l'idée c'est que c'est une cuisine fondée sur l'idée de faire nécessité vertu. Donc c'est une cuisine qui est née sur les plantations esclavagistes hein, et les esclaves accommodaient les restes de la table du maître. Hein, donc on leur laissait des bas morceaux de viande comme des pieds de porc ou des intestins de porc qui sont encore cuisinés aujourd'hui, qui font partie d'aliments de base de la soul food, ou encore des coudes d'Inde. Et donc ils ont réussi à en faire une cuisine élaborée avec des modes de préparation lents, bouillon, ragoût et un recours à un grand nombre d'herbes et d'épices. Donc là où c'est intéressant, c'est que c'est à la fois une cuisine qui est populaire par son origine, hein, qui visait à nourrir des travailleurs de force, hein, très calorique, et en même temps qui est une cuisine ethnique, puisqu'elle est rattachée à l'expérience unique des Noirs américains. Il y a des influences africaines dans cette cuisine aussi, il y a l'influence de l'esclavage, de la grande migration ensuite des Noirs du Sud vers les villes du Nord. Donc voilà, c'est quelque chose où il y a un attachement culturel très fort à cette cuisine. Et donc, pour la composition des repas, alors... la plupart des repas donc sont consommés. Alors ça c'est un modèle qui vient de Sidney Mintz. Comme dans la plupart des cultures humaines, en fait, on peut décomposer les repas en deux. Il y a un féculent de base et un complément périphérique qui vise à ajouter un peu plus de goût, qui est dans ce cas-là à base de protéines. Donc le féculent de base c'était toujours du riz ou du maïs. Alors le riz ça entrait dans la composition du red beans and rice, qui était le plat le plus préparé sans doute. Le maïs c'était en général du pain de maïs, cornbread, donc fait une sorte de gâteau fait avec de la semoule de maïs. Il y avait aussi un peu des fois des patates douces, des pâtes c'était seulement pour les enfants, hein, macaroni and cheese. Là sur le plat qu'on voit, donc c'est un repas de fête, là on a des patates douces, des yams préparés avec du sucre, candied yams, quelques haricots, il y a un peu de légumes en périphérie, du poulet frit ou pané. Et donc le complément périphérique, c'était toujours à base de protéines, hein, ne mangez jamais un repas sans viande ou poisson, parce qu'on est en Louisiane, donc il y a beaucoup de fruits de mer. Donc la viande, c'est porc-poulet, jamais de bœuf. Le bœuf, c'est vraiment, c'est ce qui distingue vraiment l'alimentation des blancs et des noirs aux États-Unis, hein, en tout cas dans l'expérience que j'en ai à la Nouvelle-Orléans. Et donc les fruits de mer, crabes, crevettes et crevisses suivant la saison. Hein. Faut savoir que les fruits de mer coûtent très peu cher à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, hein, c'est pas comme ici. Et donc voilà, très peu de légumes, c'était des brocolis, des petits pois, des carottes qui étaient vraiment mis sur le côté de l'assiette. Il y avait quelques fruits, mais le plus souvent consommés, transformés en dessert ou en jus de fruits ou en confiture, des fois voilà des fraises ou des pommes en dessert. Donc c'est une cuisine qui est très riche et calorique. La plupart des membres de la famille Taylor sont d'ailleurs, comme on a pu voir sur la photo, en surpoids ou obèses, en particulier les femmes. Et ils en sont tout à fait conscients hein, de leurs problèmes de santé et du fait que ces problèmes de santé soient liés à leur alimentation. Pourtant, ils ne changent pas leur alimentation. Ils savaient que moi, ça m'intéressait, les histoires de réforme alimentaire et tout ça. Mais on peut se demander, ben, comment ça se fait s'ils sont si conscients de leurs problèmes liés à leur alimentation, pourquoi ils vont pas changer leur habitude? Donc, ils me disaient, la sœur des salades m'a dit un jour, un repas de Noël, comme tu peux le voir, on aime tous manger ici dans la famille, hein. Ils plaisantaient souvent là-dessus. Barbara, elle me confiait manger plus de fruits et légumes, essayer de manger plus de fruits et légumes. Quand elle mangeait toute seule, des fois le midi, je voyais qu'elle se préparait une salade. Donc on peut se demander voilà pourquoi les Taylor ne changent pas leurs habitudes alimentaires alors qu'ils sont conscients des risques posés pour leur santé et que par ailleurs il existe des adaptations de la soul food plus légères qui utilisent des légumes associés culturellement à la soul food comme des légumes feuilles, des collard greens, des choses comme ça. Et d'ailleurs le modèle de la distinction prévoit que ben quand on s'élève sur l'échelle sociale, on adopte une cuisine plus légère. Donc là je cite Bourdieu, alors j'ai pas retrouvé la citation originale parce que je suis parti de mon article en anglais, donc j'ai traduit depuis la traduction anglaise de Bourdieu. Quand on passe des classes populaires vers les classes moyennes, le relâchement des contraintes économiques est accompagné par un renforcement de la censure sociale qui interdit les aliments lourds en faveur de la minceur et de la distinction. Et donc voilà, je me demandais pourquoi on ne trouvait pas cette pratique de distinction autour de l'alimentation alors qu'on la retrouve ailleurs. Et en fait, c'est que si on reprend le modèle de Bourdieu, ça, c'est valable pour les classes les plus riches en capital culturel. Mais les fractions de classes plus riches en capital économique, là, Bourdieu nous dit, quand on passe des ouvriers aux patrons de l'industrie et du commerce, et à travers les contremaîtres, les artisans, les commerçants, les contraintes économiques tendent à se relâcher sans aucun changement fondamental dans la structure des consommations. Donc, ça veut dire qu'en fait, du côté des professions qui sont plus sur en haut à droite de l'espace social, quand ils passent donc de ouvriers, contremaîtres à patrons, on garde les mêmes consommations, fondamentalement, c'est juste qu'on consomme plus de la même chose. Et là, c'est un peu ce qui se passait chez les Noirs américains. L'idée, c'est que les classes riches en capital culturel, elles vont se distinguer des nouveaux riches, de la vulgarité des nouveaux riches, en mangeant des trucs fins, raffinés. Les classes plus riches en capital économique, elles vont se distinguer à l'inverse du snobisme des fractions plus riches en capital culturel, en mangeant une cuisine populaire juste plus abondante, des aliments plus chers, etc. Donc, toute chose égale par ailleurs. On retrouve un peu la même chose ici. Les Noirs américains occupent, du point de vue de leur consommation alimentaire, une position analogue aux classes plus riches en capital économique dans la distinction de Bourdieu. Et donc, on peut donner une image de cette relation, alors qui est bien sûr qui vaut ce que ça vaut. Hein. En comparant le schéma, donc je vais finir là-dessus, en comparant le schéma de l'espace social de Bourdieu, donc on retrouve dans la distinction. Alors, c'est un schéma que j'ai adapté d'un manuel anglais. Donc on voit voilà les classes riches, plus riches en capital culturel qui sont ici, plus riches en capital économique qui sont là. On voit le goût pour les aliments sains, raffinés plutôt ici, en haut à gauche. On voit que les classes plus riches en capital, les classes dominantes plus riches en capital économique consomment plutôt des aliments riches, forts, sucrés, salés, etc. Qui ressemblent aux consommations des classes populaires. Si on compare ça avec un autre schéma qui est la structure de caste, alors c'était la façon d'appeler les races à l'époque, et de classe dans le sud des États-Unis, donc qui vient de William Lloyd Warner, là sur ce schéma on a quoi? On a une image de l'espace social avec les blancs d'un côté, les noirs de l'autre qui sont séparés par une ligne de couleur. On a une distinction quand même entre classes, upper class, middle class, lower class, on a l'équivalent chez les noirs. Et donc, si on superpose ces deux schémas, on peut se rendre compte que la distinction permet malgré tout d'expliquer, toujours d'un point de vue relationnel, et malgré les limites de ce modèle, les consommations particulières de cette famille. Je vous remercie.